Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va! Bonjour, cette semaine, je vous apporte une conversation avec le gars qui m'a appris que quand tu joues aux deux sons, tu joues aux cartes là, puis tu parles de la toux, c'est pas la toux comme T-O-U-X, comme c'est la toux L'A-T-O-U-T, qui est vraiment quelque chose que j'aurais jamais cru que c'était ça, je le croyais pas, je l'ai googlé. C'est vraiment ça, actually. So, si vous êtes comme moi, puis mind blown right now, c'est Yves Pellerin qui m'a appris ça, puis il m'a appris plein d'autres stuff sur cette conversation ici. On parle un peu des sports, du rugby en particulier, puis même une petite discussion sur les e-sports. On parle des quatre domaines de développement personnel d'après Yves, puis comment est-ce qu'il a décidé d'incorporer plus d'or dans sa vie pour sa croissance personnelle. On parle des préjugés, puis on parle aussi de comment est-ce qu'il y a vraiment une richesse à avoir de la diversité. Pour ceux qui connaissent pas Yves, c'est un gars de Bouctouche qui a joué et entraîné des équipes de handball, hockey, soccer, rugby et d'athlétisme. C'est un sportif de l'extérieur, mais à l'intérieur, on trouve une passion pour les sciences, particulièrement la physique, auquel il tient un baccalauréat à l'Université de Mount Allison. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Yves Pellerin. Je suis ici avec Yves Pellerin. Yves, t'es quelqu'un que j'ai été à l'école avec, j'ai connu à travers mon secondaire. Puis, j'ai rencontré Beck une couple de fois à mesure que j'étais un adulte, I guess. Il y a du monde que j'ai jamais Beck vu après high school, mais on dirait quand ça croisait à des places, puis j'ai tout le temps trouvé qu'on a eu des conversations intéressantes. So, je trouverais que ça serait le fun de t'avoir au show. Puis, on est là aujourd'hui, so merci d'être là avec moi.
Il y en a là, je suis super excité d'être avec toi.
C'est une personne que moi, j'ai connu comme juste à travers de Facebook à voir, puis j'étais comme ça, c'est un gars de rugby. Puis, on dirait que t'avais le look, t'étais vraiment into it. On dirait que je voyais souvent du stuff de poster about le rugby. Puis, je suis curieux, comment est-ce que ça s'est développé, ce love pour le rugby-là? Parce que je sais qu'à l'école, c'est pas un sport qui existait. So, comment est-ce que pour toi, ça a starté, ça?
Ça a commencé, j'étais à Mount Allison pour l'université. Ça fait, en allant là, je m'ai fait mettre dans une résidence avec basically une gang de football puis de rugby des gars. C'était une raison toute de garçons. Puis, comme tu m'as probablement peut-être vu jouer au hockey quand j'ai joué pour Clément au secondaire, j'étais pas un bon joueur de hockey. Tu sais, j'étais rough, je faisais des choses comme ça. J'ai joué au soccer, mais j'avais jamais vraiment trouvé mon sport. Tu sais, là, 5 pieds 8, 250 livres, c'est pas un typique joueur de soccer ou de hockey, mais tu sais, j'étais athlétique assez pour faire les équipes et être avec mes chums, puis basically, c'était juste une excuse pour être avec mes chums. Une fois j'arrivais à l'université, il y avait un des gars qui restait avec nous autres, que lui, il était un gros joueur de rugby de l'île du Prince-Édouard, puis il a joué avec l'équipe de rugby. Ça fait, il était comme, hey, comme tu sais, là, t'es avec tes talents de courir, puis d'être tough, des choses comme ça, tu devrais venir jouer au rugby. Mais là, il était tard dans la première année, là, quand j'ai vraiment commencé à rentrer dedans. Ça fait, au début de ma deuxième année d'université, je m'ai dit, ah, ben, je vais essayer l'équipe, faire partie des boys, puis tout ça, puis ça, c'est le fun. Fait, j'étais au try-out, puis c'est vraiment là que je m'ai aperçu que j'ai l'attitude, j'ai le body type, j'ai qu'est-ce qu'un joueur de rugby devrait avoir pour la position que je jouais. Au rugby, il y a plusieurs positions, il y a 15 positions, qui sont toutes différentes. Ça fait, moi, je tombais dans des certaines catégories de types de personnes qui avaient besoin. Ça fait, là, j'ai fait l'équipe, puis j'ai pratiqué une couple de semaines, puis là, ils m'ont mis dans un petit 10-15 minutes, voir comment ça filait. Puis, de ce moment-là, j'étais en mode amour avec le rugby. C'était, on dirait que c'était un sport qui a été fait pour moi et non moi qui essaie de s'adapter à un sport. Okay. Ça fait de là que moi, j'avais toujours l'intérêt de coacher. J'ai joué au handball pour les Jeux de l'Acadie. Là, j'ai commencé à coacher le handball. Là, quand j'étais au secondaire à Clément, j'avais fait de l'athlétisme pour les Jeux de l'Acadie. J'étais sur l'équipe de Clément Cormier de l'athlétisme. Puis je coachais en même temps, j'étais là, j'étais comme grade 12, puis je coachais. Ça fait, mon amour du sport était tout le temps là, mais j'avais pas vraiment encore trouvé le sport qui était le mien. Fait, là, le rugby a devenu ça. Fait, en jouant, j'ai appris, en apprenant, j'ai commencé à coacher, puis ça a éventuellement développé dans un amour de toutes les parties du rugby. Ça fait jouer, coacher, j'ai été le président du New Brunswick Rugby Union, ça fait, j'ai fait beaucoup d'administration. Ça fait, c'est là que vraiment, comme ma connaissance du sport a évolué. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que tu parles, ah, puis ils disent, ah, moi, je connais le hockey. Puis on dit, ah, ben, comment est-ce que tu connais le hockey? Ah, ben, moi, je peux te nommer tous les joueurs de la NHL.
Okay.
Ah, ben, tu connais la NHL. Tu connais pas le hockey.
Yeah.
Il y a une différence entre connaître un sport puis connaître les joueurs d'un organisme qui joue dans une ligue, des choses comme ça. Et moi, ça m'a vraiment donné une chance de développer ce que je voulais dans le sport, c'était d'être connaissant dans toutes les parties du sport.
So, qu'est-ce que tu penses qui fait que, on dirait que le rugby n'est pas un sport connu par ici? Qu'est-ce qui fait que ça a kind of passé en dessous du radar pour beaucoup de monde?
C'est parce qu'on est français. La grosse raison, c'est parce qu'on est français. Le rugby est très populaire dans les endroits anglais. C'est okay. Un sport d'anglais. Ça vient de l'Angleterre. Ça a été développé par l'Angleterre. Nous autres, comme Acadiens, on n'avait pas été exposés trop à la culture anglaise. Puis, tu sais, les écoles, les secondaires à Moncton, à Saint-Jean, Fricton surtout, ils ont eu du rugby, ça fait des années. Mais nous autres, on a grandi. Avant, c'était baseball, hockey, par chez nous.
Yeah.
Puis là, Yvon Picard, à Magré-Michaud, lui a amené le soccer. Le soccer a devenu populaire, puis avec comme toutes les autres places sur la planète, le soccer est devenu le sport. C'était inévitable.
L'accès au soccer, c'est facile. T'as besoin d'un champion ball. That's it.
Exactement. Yeah. Le soccer, t'as besoin d'un champion ball, puis t'as pas besoin de l'entraînement au niveau où ce que tu aurais besoin, le football, le rugby, le hockey, des sports de contact, où ce qu'il faut que tu prépares ton corps pour se faire fesser. Soccer, tu peux juste jouer, puis c'est facile. Puis moi, j'ai travaillé au Maroc pour un bout, puis tu sais, les jeunes jouaient au soccer dans une ruelle avec une canne de Pepsi qui avait écrasé en boule.
C'est ça.
Tu sais, là, ouais. Ça fait, oui, le soccer était beaucoup plus accessible. Mais par chez nous, il n'y avait pas, comme tu le rappelles, le Céleste Boulay, right? Céleste à Clément. Oui. Céleste disait tout le temps, c'est facile de commencer un nouveau sport dans une région si tu as l'entraîneur. Elle a dit, okay. Moi, j'arrivais de l'Odyssée. J'avais pas de lycée de Mount Allison, puis j'ai dit, je veux commencer une équipe à Clément Cormier de rugby. Fine, essaye. Fait, j'ai essayé, puis j'ai réussi. Il y a eu une équipe de rugby à Clément pour comme 5 ans après qu'on a décollé, moi, plutôt.
Okay. Okay.
On a eu des bons athlètes, il y a des années qui sont fait demander pour essayer l'équipe canadienne, des choses comme ça. Il y a eu, mais là, moi, j'ai déménagé à Moncton, puis c'était beaucoup plus difficile de garder le programme-là. Je l'avais donné à une de mes anciennes athlètes, puis juste pour des raisons, le rugby à Clément a reformé les livres de nouveau. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un là, moi, qui avait intérêt, puis tout ça. Dans les écoles anglaises, il y avait déjà du monde qui avait joué au rugby, qui avait repris le coaching, puis des choses comme ça. Ça fait, c'est une roue, les sports. T'sais, là, tu commences tes jeunes, tu te fais coacher par ton père, jusqu'à temps que tu deviennes un père, là, tu coaches tes jeunes, puis 95% des coachs dans le minor hockey, minor soccer, des choses comme ça, c'est des parents des jeunes qui jouent. Rugby, il n'y avait pas ça. Fait, moi, je m'attendais d'avoir une équipe de rugby pour longtemps, c'est que ces jeunes-là peuvent prendre la relève. Ça n'a juste pas duré assez longtemps.
Okay.
Mais c'est un sport qui est quand même très populaire sur la planète. Là.
C'est comme, on dirait que comme les ligues professionnelles, moi, je les connais zéro. Là. Comme je joue pas un gars de sport en tout, je connais pas les sports plus que ça. Mais le rugby, comme si tu me dirais qu'il n'y a pas d'équipe au Canada ou qu'il n'y a pas de ligue au Canada, je te croirais parce que je suis zéro au courant de ça. Tandis que je suis au courant de la CFL, je suis au courant de la NHL, je suis au courant de la NBA.
C'est passé sur la TV.
OK. Ben, pourquoi est-ce que le rugby serait pas sur la TV?
Ben, c'est que ben, l'intérêt du public n'est pas haut assez pour avoir le rugby sur la TV. So, c'est comme ça que ça travaille avec comme tous les sports. Un des sports les plus populaires, TV rating-wise, c'est le curling.
Vraiment?
Le curling domine les airways. Pourquoi? Parce qu'ils appellent ça du hangover food. Le dimanche matin ou le samedi matin, tu te lèves, tu mets ça à TSN, puis il y a du curling 3 journées. Tu fais tes plats, tu fais ton lavage, tu t'amuses avec les jeunes, ça reste sur la TV. Mais quand ce que tu as ce viewership-là, c'est incroyablement différent que quand ce que tu es rugby. Et rugby, c'est pas super populaire au Canada encore, comparé au hockey, puis au golf, des choses comme ça. C'est quand même une bonne popularité, mais nous autres, comme le rugby, faut qu'on paye TSN pour avoir du airtime. À chaque fois qu'il y a une game de Rugby Canada sur la TV, on paye 200 000 pièces à TSN pour le jouer.
Wow.
Autant que curling sont assez gros que eux autres sont capables de payer 1 million pour avoir le airtime, mais ils ont contrôle de tout le advertisement.
Okay.
Autant que nous autres, on paye 200 000 pièces à TSN, puis il fait l'argent sur le advertisement. Ça dépend comment gros que t'es. Plus gros que t'es, plus de chances que t'auras à contrôler des choses. Ça fait le rugby, il était en retard à développer des ligues professionnelles. Autant que le hockey, football, soccer, ils ont tous commencé des ligues professionnelles avant. Fait, on commence une ligue professionnelle, ça change tout. Une des choses, ça change le sport in itself. Comme le rugby a commencé à avoir des ligues professionnelles en Afrique du Sud, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Fait, ils jouent toutes dans leur propre ligue à ce temps. Mais depuis qu'ils ont développé ces ligues professionnelles-là, le sport, la manière que la game de rugby est jouée a complètement changé. Parce que tout d'un coup, il y a de l'argent, puis il y a de l'intérêt. Ça fait, tu peux avoir des analystes, puis des théories de rugby. Puis là, tout d'un coup, tu as une équipe, dans l'équipe, disons, Là, tu vas prendre les London Irish. Il y a une équipe en Angleterre qui s'appelle London Irish. Ben, les London Irish, il y a un gars qui regarde du vidéo 24 heures sur 24 pour voir des petites chances à améliorer des choses. Mm-hmm. Mais 20 ans passés, là, il n'y avait pas de professionnel plus que ça. Ça fait l'équipe canadienne, il n'y avait pas les ressources pour avoir un gars sur du vidéo all the time. Ça fait, tout d'un coup, le rugby est devenu un sport d'athlète et moins un sport de recreation. Tu sais, comme rugby au Canada, on était rankés dans les top 10 à 12 au monde 20 ans passés.
Okay.
On était des gros, forts, tough guys, des farmers, des pêcheurs. On allait jouer en Angleterre, puis on jouait contre des hommes égaux à nous autres. On était capable de compétitionner. Mais tout d'un coup, l'Angleterre a une ligue professionnelle. Les autres ont développé le sport puis leurs athlètes. Donc, nous autres, on a resté des hommes forts ou des femmes tough puis whatever. But strength puis toughness va juste t'amener so far. Donc, tu joues contre des équipes qui sont perfected. Leur capacité de jouer au rugby est supérieure aux nôtres simplement parce que l'intérêt d'être meilleur et plus grande là-bas qu'ici tout de suite.
Yeah. C'est intéressant parce que l'affaire qu'on s'est dit comme quand on parlait de recorder cet épisode ici, je t'ai demandé la question si tu pensais que les e-sports c'était un vrai sport. Puis ça, c'est une question qui se fait poser. Puis à la fin, moi, je trouve que ça reste beaucoup à être juste les semantics de la langue, de dire si c'est comme c'est qualifié là-dedans ou pas. Parce qu'il y a quand même des similarités, comme qu'il y a des différences. Puis la réponse que tu m'as dit de le temps était que t'sais, c'est un sport que tu peux regarder parce que n'importe quel sport, si tu mets, tu peux avoir des animaux qui sont prêts à faire de quoi ensemble, puis tu peux dire que c'est entertaining à watcher, puis c'est un sport d'entertainment, but que du e-sport, c'était pas vraiment comme athlétique d'une manière. Mais ce que j'aimerais répondre à ça, c'est que comme de plus en plus, ça le devient. Parce qu'il commence à avoir de l'argent, right? Parce que, comme que tu dis, quand tu commences à mettre l'argent dans notre quoi, ben là, le monde start à être plus intéressé, puis pour te développer à un niveau à juste que tu as besoin d'aide pour être le meilleur au monde, ça commence à être une affaire à juste que tu dois mettre la même sorte de dédication qu'un athlète mettrait pour faire les Jeux olympiques ou des choses comme ça, ou est-ce que tu passes ta pleine journée à travailler là-dessus ça, puis c'est pas juste à le faire, c'est de l'étudier, puis d'avoir du coaching, puis des choses comme ça. Alors, c'est intéressant de voir comment, puis j'ai aimé ça, comment ça t'as parlé que l'aspect business puis argent dans le sport change beaucoup.
Oui, ben comme c'est... Sans argent, tu n'auras jamais du développement. Sport, business, science, tu ne peux pas juste assire dans un sac et imaginer que ça va être meilleur. C'est la première étape, mais you gotta follow through. Puis les e-sports, comme c'est là que j'ai eu cette réalisation-là. On a monté à Montréal, je coachais l'équipe de hockey à l'Odyssée, comme l'année passée. On a monté à Montréal avec les boys, puis ils ont fait un tournoi de NHL 2000, whatever, sur la PlayStation. Ils ont pu brancher ça dans la bosse, tout le monde sa bosse, sur tous les écrans, tu étais capable de voir les games. Yeah. C'est là que tu aperçois que tu as Louis et tu as Jean qui jouent un contre l'autre sur NHL 2020, puis tu regardes ça sur un écran. Pour mon entertainment, il n'y a pas de différence en regardant ça, puis regarder une game de les Canadiens contre les Maple Leafs qui sont sur la glace au Bell Center après jouer.
Yeah.
Pour entertainment, c'est toute la même chose. Ben, à ce point-là, tu commences à regarder. Puis tu classifies tout entertainment ensemble. Tu sais, musique, théâtre, movie, sport, c'est tout pour nous divertir.
Mm-hmm.
Mais est-ce que je considérerais un gars avec un controller dans les mains, un athlète, parce qu'il joue un sport? Ça serait, moi, dans mon opinion, ce serait non ou deux. C'est un compétiteur, oui. C'est un professionnel de son art, oui. Mais étant un athlète moi-même, j'ai de la misère à dire que lui, c'est un athlète. T'sais, parce que le IOC décrit un sport comme c'est une activité compétitive physique qui a la chance de donner un heart rate qui est plus haut. T'sais. Est-ce que les e-sports tombent dans toutes ces catégories-là? Non.
Moi, j'argumenterais oui, par exemple. J'argumenterais que si c'est ça ta définition d'un sport, j'argumenterais oui, parce que c'est certain que les joueurs qui jouent, quand ils sont prêts de jouer à ces niveaux-là, c'est certain que le heart rate est augmenté. Tu n'as pas le choix, je veux dire. C'est des affaires de des micro-mouvements, puis c'est... L'affaire est, c'est que tu n'utilises pas tout ton corps, par exemple. Si ta définition de sport, ça serait de utiliser tout ton corps pour faire une performance sportive, comme ça serait peut-être un peu différent, mais de dire que son elevated heart rate, c'est certain que c'est là, parce que tu sais le niveau de compétition du monde qui joue dans le... Tu sais, de quelqu'un qui assiste sur son couch qui joue de la video game, se rendra jamais au niveau de gagner des millions dans des tournois, right? Parce qu'il y a des millions, puis... Tu sais, c'est qu'il y a des personal trainers physiques aussi pour les rendre en tip-top shape pour pouvoir continuer à performer à ce niveau-là sur des grands montants de temps, right?
Oui, parce que la fatigue va quand même devenir un aspect négatif à ta performance. C'est ça. En meilleure forme physique que t'es. J'avais jamais pensé à ça de même, pareil. Parce que c'est vrai que tu, comme, faut que tes pouces soient, faut qu'il y ait une coordination avec tes pouces.
Ben, incroyablement. Pas rien que tes pouces, surtout même comme ta keyboard, tu sais, comme ça, il y a des games qui sont joués avec une keyboard. D'ailleurs, que t'as comme plusieurs différentes places que faut que tu mettes tes doigts puis qui font comme, tu sais, plusieurs actions par seconde, que même la nutrition devient une affaire pour garder une endurance de pouvoir performer à ce niveau-là. Si tu sais, un tournoi de temps qui peut durer un week-end ou des choses comme ça, right? C'est intéressant comment est-ce que, tu sais, à la fin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de similarités que je pense que beaucoup de monde réalise. Parce que, à cause de l'argent, ça est devenu pas juste, tu sais, un gars sur le couch qui joue une game ou une fille sur le couch qui joue une game. Ça est devenu une affaire de comme, OK, ben, c'est sûr, il y a beaucoup d'argent à gagner. Puis en plus, c'est tu te fais rien payer, c'est que tu gagnes. So, il y a un huge incitatif à être le meilleur, à étudier les meilleurs, puis à devenir comme, que tu regardes le monde qui parle, que c'est comme, OK, ben, si qu'on prend un mois off, là, on ne tient plus la curve, là, on ne peut plus chain aller. Sauf que les carrières sont habituellement pas super longues parce que ça prend une dédication qui est comme plus ou moins pas humain.
Puis je suis sûr que le pushback vient aussi de démographie qui est comme moi. Tu sais là,
oui.
Jusqu'à un certain moment, pas longtemps passé, le monde digital n'existait pas. Alors, si tu étais fort puis tu étais athlétique, tu avais quelque chose de supérieur à un homme normal. Là, je vais parler en gros. Là. Mais tu sais, comme 50 ans passé, un gars qui était fort, un gars qui était athlétique, un gars qui était whatever, alors, tout d'un coup, le ton de digital est arrivé, puis des gars comme moi, ils veulent garder leur pouvoir. Puis à la fin de la journée, c'est comment de power que tu peux avoir, puis comment de contrôle tu peux avoir. Mais tout d'un coup, il y a eu un shake que tu peux être gros, tu peux être fort, tu peux être athlétique, tu peux still être pas dominant dans un aspect de la réalité qui est maintenant la réalité, c'est que les e-sports existent. T'sais, ça fait comme pour longtemps, des gars comme moi étaient complètement contre le e-sport. Puis ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour arrêter le développement ou de donner la crédibilité. Mais comme tout autre monde, le e-sport a devenu un monstre par lui-même. Il y a eu ses propres héros, il y a eu sa propre économie. T'sais, là, ça fait tout d'un coup, les forces du e-sport sont égales aux forces naturelles physiques du passé. Puis je pense que la résistance au change, puis le pas vouloir donner ce pouvoir-là. Tu sais, pour des mille, puis des mille, puis des mille ans, tu mettais deux hommes ou deux femmes dans un ring, le plus fort sortait gagnant. Tu veux dire? Mais c'est plus ça.
C'était la force physique, c'était le alphanus de tout ça qui était important.
C'était la seule mesure qu'on avait dans le temps.
Yeah.
Puis, il y en a plusieurs des mesures. Alors, puis, tu sais, là, je généralise, mais le gros, fort athlète n'est pas nécessairement le plus intelligent. Puis, d'un coup, ça even out le playing field que si tu as une affaire dans toi, qui est supérieur à ton intelligence ou ton athleticism ou ton quelque chose, tu peux exceller dans différentes branches de la vie.
C'est beautiful ça. J'enjoy vraiment ça. Je trouve ça nice. Puis c'est intéressant aussi parce que comme, tu sais, moi, académiquement, j'ai bien fait assez. Puis je regardais des choses, est-ce que du monde qui a eu un background comme moi, qui s'est lancé dans les arts, puis là, il réalise, c'est comme, oh wow, OK, ben je pourrais bien faire à l'école, but ici, c'est plus le plus smart académiquement qui gagne dans le cours de design. T'sais, c'est le plus créatif qui a les meilleures notes. Puis c'est comme weird parce qu'il y a souvent, comme j'ai lu des testimonials, des disconnections à use que le monde est comme, wow, ça m'a vraiment fessé à use que comme j'étais accoutumé de, si je travaillais plus dur à étudier, j'allais bien faire. Puis là, j'arrive d'un monde à use que c'est comme, je peux plus mieux faire à étudier plus fort. Faut que je serais plus créatif pour mieux faire. Puis c'est comme, c'est vraiment un kind of shock quand ce que tu réalises, t'es comme, j'ai pu dans ma sandbox que j'étais confortable dedans.
Oui, c'est comme la théorie que je t'avais parlé de, quand je t'avais parlé avant l'interview, jusque moi je crois qu'il y a comme quatre places jusque un homme ou une femme peut s'improver comme une personne. Puis l'éducation, c'en est une des autres. Ben éventuellement, tu vas reach un point jusque si t'es pas en train de travailler sur tes trois autres catégories, t'es limité dans ta forte catégorie que toi c'était l'intelligence, l'école, c'est du acquired knowledge au travers d'un medium. Comme toi, à l'école, tu as tout le temps été super smart. Tu étais à l'université, pète de levon, gradué, boom, no problem. Tu veux dire?
C'était un peu dans l'eau, là, on va dire qu'OK.
En tout cas, moi, tu as tout le temps été dans le top de nos classes. Tu as tout le temps été vu comme un des gars smart avec nous autres. Tu veux dire, dans notre game.
Merci, j'apprécie ça.
Mais c'est pour ça, comme un while back, j'ai commencé à penser comme OK, ben, tu sais, moi, j'étais 17 à l'école. J'ai fait une 17 carrière éducationnelle. J'étais à Montréal, j'ai gradué, whatever. Tu sais, j'ai fait une 17 carrière athlétique. Tu sais, là, j'ai joué du hockey, c'était là, j'ai joué du rugby, c'était là. mais je me sentais pas complet comme personne. Parce que moi, je trouve qu'il y a, l'éducation, de prendre quelque chose sur une page puis de le rentrer dans le brain. Il y a l'art, c'est la capacité d'être artistique. En plus de ça, il y a la capacité de grandir. Comme je ne suis pas super religieux, mais il y a une partie de ça, de ton bien-être puis ta connaissance de toi-même. Là, est-ce que c'est religion? Est-ce que c'est trouver un Dieu pour suivre? Est-ce que c'est simplement t'écouter toi-même puis t'avancer toi-même? Puis la dernière façon, c'est athlétique, musical, artistique, spirituel. Là, ça fait, c'est pour ça que tu reaches ta limite éventuellement éducationnelle. Faut que tu sois artistique pour aller plus loin. Fait, si t'as pas développé ce partie-là de toi-même, ben c'est là que tu commences. C'est des réalisations que tu peux pas seulement être bon dans un département nécessairement pour être une personne well-rounded.
Puis c'est intéressant ça, puis même que je vais faire la remarque que personnellement, on se connaissait pas si tant que ça à l'école. J'aurais pas imaginé ou je savais pas que tu jouais des drums, puis je savais pas que tu aurais eu un intérêt pour la physique, puis les sciences comme ça. Puis ça, c'est intéressant de, comme même à l'extérieur, quelqu'un qui te connaît pas, tu sais, il regarde cet athlète-là, puis il dit pas comme, ah, oh, ce gars-là va étudier en physique, ou même que ce gars-là a des talents musicaux que tu sais, qui peuvent pas paraître, parce que t'as pas, je m'en rappelle pas beaucoup de t'avoir vu jouer aussi, que je t'ai vu jouer en tout à l'école, right?
Non, parce que le monde me voyait sur la glace, après écraser du monde à board, puis de me battre, puis des choses comme ça. Puis le monde associe un type de caractère avec un type peut-être de body type ou d'image que tu donnes.
Yeah.
Comme tu me vois marcher sur le chemin, là, tu sais, là, je suis pas gros comme j'étais, mais tu sais, j'étais en université, je faisais 270 livres, 5 pieds 8, tu sais, j'allais au gym tous les jours. Il n'y a jamais personne qui aurait dit à ce gars-là, là, après sa pratique de rugby, il y a un lab de physique.
Yeah.
Puis c'était, c'est quand même, tu sais, c'est un type de préjugé. Mais venant d'un athlète, c'est dur à appeler quelqu'un d'autre un préjugé. Parce que, tu veux dire, dans l'image idéale d'un high schooler, le joueur de hockey, l'athlète, il a la belle vie. Tu veux dire? Mm-hmm. Puis le gars qui est dans Rock Tech, ben, le monde, il look down on them. Mm-hmm. Tu veux dire? Puis, chaque fois que tu réalises que c'est pas ça qu'est la vie, tu t'aimes dans ce petit roue-là. Tu sais, là, le joueur de hockey, il est cool, puis il va être cool toute sa vie, puis le gars qui fait le son technique au théâtre, tu sais, puis ça n'a pas rapport en tout. Dire, moi, je m'ai tout le temps plus associé comme un nerd, tu sais. Moi, j'aimais la physique, j'aimais l'espace, comme moi, j'ai toujours voulu être un astronaute. J'ai petites fusées, de model fusées dans mon office, c'est plein d'avions, des model avions devant la main. Mais la seconde que je sors en public, le monde voit, ah, il n'y a pas de coups, il pèse 270 livres, c'est un athlète, et il doit être bien simple, il doit, tu sais, pas carry about des choses de même, tu sais, là.
Juste parce qu'on a grandi avec, si tu as une différente image au secondaire, on va dire, trouves-tu que c'était de quoi que tu étais intéressé dedans, mais que tu devais cacher un peu avec tes chums, les boys, on va dire, là, de les sports, parce que ça aurait pas été cool de parler de ça?
Moi, j'ai jamais caché mon nerdness, ever.
Okay.
À high school, je watchais Star Trek, puis je parlais de Star Trek, puis mes chums se moquaient de moi, comme surtout dans le dressing room de hockey, tu sais, là.
Ah oui,
c'est ça. T'es une boys, puis t'es supposed être tough, t'es supposed être whatever, puis moi, j'ai jamais caché mon nerdness. J'ai toujours été proud de ça. Puis, je m'ai tout le temps, comme j'ai dit, je m'ai tout le temps plus vu comme un nerd qu'un athlète. Parce qu'un athlète, là, moi, j'ai strugglé. J'avais des chums qui étaient super athlétiques dans leur sport. Si je voulais jouer au hockey, moi, il fallait que je me batte, puis il fallait que je fasse le goon, puis il fallait que je, tu sais, la troisième ligne, puis grind, puis team player, puis fais ton bencher dans les power play, puis fais ton bencher dans la game par ses têtes. Tu sais, là. Fait, moi, je me voyais pas comme un athlète, à cause de mon physique, puis de les personnes que je me tenais avec. Tu sais, mes chums, c'était des gars que j'ai grandi avec, jouer au hockey, jouer au soccer, whatever. J'avais l'image d'être un athlète, mais vraiment, je me plaçais mieux d'un monde de sciences, d'un monde de IT, de nerd. Mm-hmm. Là, pas de gaming, là, parce que j'ai le worst gamer ever. Là. J'ai jamais fini Mario 1, mais tu sais, là, ouais, ça a été définitivement comme un préjugé seté par la culture qu'on a grandi dedans. Tu veux dire, mm-hmm. Comme toi, je te gageais que quand tu étais à high school, que tu n'étais pas un gros fan de tous les athlètes de l'école parce qu'il y en a beaucoup d'eux autres qui étaient soit des bullies ou qui étaient, tu sais, le typical goofy populaire à high school, qui n'était pas nécessairement, tu sais, cool dans ta vision des choses comme ça. Alors que je me rappelle qu'on hangait ensemble à high school, pareil, tu veux dire?
C'est intéressant parce que moi, je me rappelle pas beaucoup de ça, puis c'est plate, sorry, vraiment.
Je suis content que j'ai fait d'influence.
Ouais, yeah, non, c'est, on dirait, parce que Je sais pas, parce que moi, le high school, c'était pas une bonne expérience plus que ça, right? J'ai grandi, comme tu dis, j'avais cette perception-là du monde qui jouait les sports parce que on dirait que c'était la classe sociale, tu sais, c'est ça que c'était, puis c'est de même que c'était, puis moi, j'aurais joué mes video games, puis j'aurais dit, well, the hell with them, je vais concentrer sur mes études, puis je ferai tout ce que je peux, but, tu sais, avoir filé comme black sheep de le temps de l'école qui reste en cours aujourd'hui, que je me sente même que c'est des affaires que, tu sais, des séquelles qui restent longtemps quand même quand tu grandis dans des environnements comme ça, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que, tu sais, le monde a vraiment des différentes perceptions de d'autres, puis souvent tu te fais lumper in dans un groupe, même si que t'as vraiment des différentes manières de voir les choses, comme tu sais que le monde te voyait comme un job, puis c'est probablement ça l'image que j'aurais eu toi aussi, mais que quand tu vieillis, tu réalises comme ok, ben c'est du monde comme d'autres, il y a des goûts comme d'autres, puis c'est une fois que tu peux sortir de la clique, avoir besoin de fitter in, parce qu'il y a quand même ce gros désir-là à high school. Je pense que c'est ça la difficulté de high school, si tu me demandes. Je veux dire, pour moi, académiquement, c'était facile. Ben, comme la difficulté d'essayer de trouver ta place puis de fitter in, puis de, tu sais, la difficulté que ça représente comme jeune d'essayer de trouver ta propre identité, qui peut vraiment être une carrière de vie, essayer de se trouver soi-même. Mais ça fait que tu essaies de t'assimiler au groupe que tu te fais associer, même si que t'as des goûts différents, right? But je trouve ça intéressant de te connaître de cette manière-là, de voir qu'il y en a beaucoup plus que ça, puis essayer de penser c'est plate qu'on n'aurait pas pu avoir plus d'ouverture à ce temps-là, puis possible, c'est probablement mieux maintenant que c'était de notre temps. Je veux dire, il y a quand même 20 ans que ça a passé de ce temps-là, tu sais. Mais je suis curieux de explorer un peu plus sur ton geekiness, puis de comment est-ce que ça s'est développé, on va dire, comme une fois que tu sors de cet environnement-là, qui était les jocks à high school, que tu arrives à l'université, puis tu te fais dire, OK, je suis actually d'un autre groupe qui est différent d'athlète, but que je peux actually en même temps parler de la physique, puis que c'est pas si tant frowned upon parce que tu es là avec du monde qui est peut-être après des étudiants physiques aussi. So, comment est-ce que ce changement-là a été pour toi?
Ça a été drôle au début parce que on rentre à l'université, tout le monde est mis sur le même niveau. Tu veux dire, l'université, tu rentres à l'université, le gars qui est à côté de toi, la fille à côté de toi, tu sais pas ce qu'elle jouait au hockey à high school, tu sais pas ce qu'elle était. Tu sais, là, ça fait ça. On entre à l'université, ça a donné comme un petit peu un level field. Mais y avait comme deux types de personnes à l'université. Il y avait des personnes qui étaient encore prises dans la mentalité de high school où est-ce que le jock est populaire, puis le jock va tout avoir tout ce qu'il veut, puis le jock, il va traiter mal le monde, des choses comme ça. Puis, eux autres, c'était drôle d'interagir avec eux autres, parce que moi, quand j'étais à l'université, j'avais la mentalité clean slate. Tout le monde est sur la même page, tout le monde au même niveau. J'avais essayé de shaker la façon qu'on avait été au high school, d'une manière, tu sais. Fait, c'était comme drôle de parler à un adulte qui se considérait chanceux que t'étais chum avec eux autres. Comme moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, comme, tu sais, eux autres étaient comme, wow, tu sais, là, comme, tu joues au rugby, moi, j'étais rep de Moosehead en même temps, t'es rep de Moosehead, tu joues au rugby, puis comme j'allais à des maisons hang out avec du monde, puis t'es comme tu viens ici t'es hang out avec les autres, puis j'essaie de lui dire comme t'es à l'université right now, là il y a plus de social class, il y a plus de cool kids, pas cool kids. Ben pour des certaines personnes c'était très difficile de shaker cette structure sociale là, tu veux dire là. Puis comme j'ai été à l'université comme plusieurs fois, comme t'es cool, comme tu sais t'es un jock, puis tu viens hang out avec les autres les week-ends. Ben moi j'allais hang out avec les autres les week-ends parce que j'aimais hang out avec les autres, tu veux dire. Ben moi je voyais pas que mon physique me classifier à une différente place qu'eux autres. Mais à l'université, j'ai quand même rencontré du monde qui était dans la même mentalité que moi, que tout recommence. Tu sais, là. Et moi, j'avais cette mentalité-là. Je rencontrais, comme je travaillais avec un gars qui s'appelait Sébastien à Maoré. Lui, c'était un All-Canadian football player. T'sais? Puis le monde disait comme, Seb, tu sais, c'est un superstar. Ben, tu sais, je m'assieds avec lui en classe, puis tit joke là, dis manger la merde, puis d'un coup, on est best chum. Tu sais, le monde est comme, t'as pas intimidé d'aller parler à Sébastien? Ben, je disais, non, moi, je m'ai dit, à l'université, on recommence fresh, tout le monde est dans la même place. C'est comme, tout d'un coup, réaliser des choses comme, tu sais, worshiper du monde. Tu veux dire, là, oh my God, si je rencontrerais le lead singer de ce band ici, je crois que je braillerais. Pourquoi? C'est un homme comme toi. Il est juste meilleur à chanter que toi. Tu sais, là?
Ouais. Parce que moi, j'ai réalisé ça aussi. La même affaire que tu as prêt à dire là, je l'ai réalisé en faisant du podcasting à la fin, quand j'ai eu la chance d'être assis puis parler avec Louis-José Hood ou Mike Ward ou comme, tu sais, j'ai développé une friendship avec Nicky Payne qui reste maintenant dans cette région ici. T'as où ce que, comme, la première fois que je les ai rencontrés, comme on va dire, Nicky, à la fin, parce que je l'ai rencontré souvent, je l'ai parlé beaucoup, puis comme au commencement, t'es comme « Ah, oh, wow, t'étais sur la TV, puis je t'ai vu faire ça, c'est puis ça, puis c'est comme, tu sais, c'est comme un idole d'une manière, de dire comme je fais du stand-up, puis toi, t'as fait une carrière de ça, puis t'étais vraiment bonne, puis t'as risé up les ranks, t'as été aux États-Unis faire ça, puis comme, à la fin, tu réalises, c'est comme, tout le monde est du monde, tu sais, puis c'est intéressant aussi comment est-ce que tout le monde a ses propres problèmes ou ses propres défis. À ce que tu dirais comme, ah, oh, cette personne-là, ça a vite fait, là. But, non, cette personne-là deal avec toutes sortes de stuff qui est peut-être pour toi comme une super petite deal, but pour eux, c'est une super big deal. Puis, c'est une des belles réalisations, je pense, que personnellement, j'ai eu dans la vie, de voir comment est-ce que tout le monde est un humain qui struggle avec de quoi. Puis, il y en a qui struggle de différentes manières que d'autres. Puis, il y en a que, objectivement, le struggle est plus facile que d'autres. Veux pas, je pense que si qu'on regarde globalement au Canada, nos struggles sont vraiment light comparés au monde qui struggle pour se nourrir. Mais ça veut pas dire que nos struggles filent pas comme une struggle pareille.
C'est tout ce que je veux dire. Right? Ton plus gros struggle va te donner le même taux mental que le plus gros struggle à quelqu'un d'une autre partie de la planète. Parce que c'est ça que tu consommes dessus, c'est ton struggle.
C'est ça.
Et là, ça fait, oh, ça, c'est complètement. Ça, complètement.
C'est j'ai vraiment aimé cette réalisation-là, puis ça m'a pris longtemps avant que je le vois. Puis ça, c'est comme probablement, tu pourrais peut-être classifier ça de ta croissance spirituelle ou whatever ce que quelqu'un veut dire pour une croissance comme, tu sais, de personnel ou de... je trouve ça intéressant. Ces quatre théories-là que toi, t'as sorti avec, comment est-ce que t'es arrivé à ça, puis pourquoi est-ce que tu as mis de l'importance sur peut-être développer ça plus pour toi-même?
En sortant de l'université, je savais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, j'avais été athlète, j'avais gradué l'université. Ça fait le département de croissance dans le physique puis dans le intellectuel, éducation, était pas mal plus plein que d'autres comme comportement. Puis j'avais pas encore vraiment totalement développé comme ce concept-là. Mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Ça fait la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté la maison, j'avais une vision de qu'est-ce que je voulais avoir comme une peinture. Okay? Puis étant un jock, puis étant un nerd, c'était pas accepté, ça c'est des gros mots, c'était pas accepté dans ces départements-là d'être artistique. Puis je filais que je manquais quelque chose. Ça fait, c'est là que je m'ai dit, OK, ben moi je peux avoir peinturé, je peux avoir dessiné. Mais je suis quand même capable de me donner quelque chose qui allait moi dedans, mais que c'est pas nécessairement moi qui l'a fait. Donc, moi j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais, l'image que je voulais, j'ai trouvé les couleurs que je voulais, puis le type de design, comme la manière que ça allait être peinturé. Puis j'ai été voir un artiste, une femme que je coachais à Mount Allison dans le temps. Puis j'ai dit, gars, je sais que t'es un artiste, là. Moi, je veux ça. Demain. Qu'est-ce que tu peux le faire? Elle m'a envoyé un petit sketch sur une page de printer. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, excellent. C'est ça que je veux. Je le veux sur un tableau de 5 pieds par 9 pieds. Là, c'était, oh, wow, OK. Puis là, tout d'un coup, j'ai fait cette peinture-là, puis je l'ai mis sur mon mur. Soit à 22 ans, j'ai commencé à collectionner de l'or. Pas d'argent, plus que ça, un petit job. Un jock athlète, mais tout d'un coup, j'ai mis ça sur le mur, puis je me dis, même, ça, c'est une partie de ma vie qu'il faut que je travaille dessus. Le artistique, le développement, c'est là vraiment que l'art, puis la musique, j'ai vu, ah, puis là, je commence à me dire, OK, ben, si l'art, puis la musique, c'est quelque chose qui me manque, ça doit vouloir dire que ça, c'est une partie de ton développement comme personne. Fait là, c'est le spirituel, l'éducation, les sports, les arts. Fait, à ce point-là, j'ai vraiment commencé à penser, tu sais, là, est-ce que, am I going mad? Tu sais, là, Queen a une chanson où il décrit les étapes de part de la carte. Tu sais, là.
Okay.
J'ai écouté cette chanson-là plusieurs fois, puis je me disais même comme, est-ce que j'en prépare de la carte en croyant que j'ai besoin de l'or dans ma vie, ou est-ce que c'est un manque? C'est une façon que ma brain me dit, OK, faut que tu sois meilleur dans ce département-là, créatif, tu sois plus créatif. Faut pas que tu sois pris parce que, veux pas, dans le monde de la physique, puis le monde du sport, 90% of it est pas creative. Tu fais que quelque chose d'autre veut que tu le fasses. T'sais, hein? Les sports, il y a un coach, tu fais ça, tu traînes comme ça, whatever. La physique, ben, c'est 99% de ce qui a été fait avant toi. Puis tu essaies de comprendre ça, tu essaies d'envisionner ce qui est le futur. T'sais, hein?
Yeah.
Ça fait, dans les arts, ben là, comme tu sais, j'ai commencé à collectionner de l'art puis à aimer l'art. Comme, tu sais, tout l'art que j'ai dans ma maison, j'avais quelque chose à faire avec. J'ai pas simplement été dans une galerie acheter une peinture. Et toutes les peintures que j'ai, là, right now, je garde autour de mon office, c'est toutes des choses que j'ai demandé à quelqu'un. Et peux-tu me peindre ça? Oui. Peux-tu me peindre ça? Oui. Fait, je file que j'ai comme, sans être un peintre moi-même, je suis capable de contribuer à ma croissance artistique. Puis, les drums, aussi, ça m'a aidé plus, encore plus, parce que les drums, on était capable d'écrire des chansons. Puis moi puis les boys, on était capable de recorder des chansons, puis avoir un album. Puis là, j'avais ça toute ma vie. Là. J'ai comme une douzaine de chansons qu'on a écrites, recordées, que je peux dire, c'est moi qui l'ai fait. Tu veux dire, là?
Ben, parle-moi de ça. Je suis pas au courant de ça du tout, actually. C'est quoi ce qui est ton venture dans la musique, puis comment est-ce que ça a starté, puis il y a eu ce que ça a été?
Ça a starté, là, une de mes ex-girlfriends, là, quand j'étais jeune, ça faisait longtemps que je voulais avoir des drums. Puis mes parents, je peux les comprendre, ont jamais voulu m'acheter un set de drums. Puis, qu'est-ce qu'il veut avoir un jeune avec un set de drums à la maison? Yeah. Ça fait, puis, tu sais, là, c'est souvent brushé off de comme, ah, tu seras pas intéressé là-dedans, tu t'y joueras pas, whatever. Puis, tu sais, là, j'avais assez beaucoup d'affaires dans ma jeunesse qui me tenaient busy, surtout des sports, que la musique était jamais vraiment à l'attention. Anyways, là, ma ex-girlfriend, elle a renté un set de drums pour moi à un Noël. Elle a dit, garde, je vais le renter pour 6 mois. Là, tu vas voir si tu vas aimer ça ou pas, parce que c'est cher assez des drums.
Mm-hmm.
Puis, si t'aimes ça, well, tu figure out ce que tu veux faire avec ça après.
Alors, je t'aurais eu ce temps-là.
Ah, j'avais eu comme 20 ans, 21 ans. J'étais plus vieux. Je jouais pas des drums en high school.
OK.
J'ai toujours voulu jouer des drums en high school, mais je jouais pas. J'ai commencé à jouer, là, right après l'université. Comme la première 6 mois après l'université, là, c'est là, j'ai commencé à sortir avec cette femme-là, puis là, c'est ça. Puis, un de mes bons chums, Eric Boulay, lui, il était capable de jouer tous les instruments ever imaginables. On n'avait jamais pensé de jouer plus que lui, j'ai un petit peu de guitare, moi, j'ai des drums. Donc, lui, mais chez nous, puis on jouait literally le milieu de des chansons. T'as pas passé pour faire le début, puis la fin, on jouait le début, puis on avait time of our lives, une heure par semaine, on faisait du bruit.
Yeah.
Ça, ça a éventuellement amené à le break-up avec sa femme-là. Puis là, tout d'un coup, il y a un autre gars qui rentrait, puis lui avait une bass. Puis là, il y a un autre gars qui rentrait, puis là, lui jouait le lead guitar. Là, il y a un autre gars qui rentrait, puis là, lui pouvait chanter. Mais tout d'un coup, on avait tout ce qu'on avait besoin pour faire une band, mais comme toutes les autres gangs de musiciens par chez nous, on avait une set list des bands qu'on aimait, puis on jouait juste les chansons. On jouait les chansons. Puis ça a pris un gars, par le nom de Steve Mays. Steve Mays, il cherchait une band pour être chanteur dedans. Il avait déménagé ici, il connaissait pas beaucoup de personnes. Déménagé ici, tout d'un coup, Steve est dans la band, puis Steve dit, j'ai écrit une chanson. On a écrit la chanson from start to finish à la gang. Puis là, c'était comme une piqûre, c'était comme, wow, ça c'est une drogue. Comme ça, c'est notre musique, c'est nous autres qui l'a écrit, c'est nous autres qui l'a joué. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui a ever entendu une chanson musique, puis elle rock pas d'être much, mais c'était la première.
Yeah.
Puis là, tout d'un coup, une chanson en vire à deux, une chanson en vire à quatre. Moi, j'ai tout été comme business savvy. Tout d'un coup, on a 5 chansons, ils sonnent vraiment bien, on les joue toutes les semaines. Je rencontre un gars, puis il me dit, ah, j'arrive de Toronto, j'étais prendre un recording course. J'étais comme, ben, quand c'est toi qui fais ça, il dit, j'ai jamais encore fait ça. Ben, j'ai dit, fais-nous une deal, puis tu pourras recorder nos 5 chansons. Puis il nous a fait une deal, comme 200 piastres, 5 chansons. Usually, c'est 50 piastres l'heure, recorder, puis ça prend des semaines. Mais 200 piastres, 2 floor recordings de chaque chanson, on prend la baisse, on met ça sur un démo. Fait donc, pas de temps, là, on avait un démo, puis on était comme, OK, good, on a un démo, qu'est-ce qu'on fait sur toi? Ah, ben, notre bass player était un des bouncers au Manhattan. Tu as du vieux Manhattan?
Yeah.
Fait Manhattan avait des new band night. Le janvier, le premier vendredi de janvier, c'était country. Le premier vendredi de février, c'était whatever. Fait, quand ça a venu à Hard Rock, on était comme classé Hard Rock, Stoner Rock. OK, c'est votre tour. Il y a 6 bands, c'est Battle of the Bands. Puis la meilleure band va se faire classifier pour ouvrir pour des bands qui viennent au Manhattan, qui n'ont pas opening act. Fait là, Business Eve a kické on, puis j'ai rempli la salle. Il y avait comme 240 personnes là, il y en avait 200 qui avaient venu pour nous autres.
OK, nice.
Il y avait des points pour l'attendance, puis il y des points pour la performance. On a rocké ça. On avait hands down la meilleure performance de rock. Puis, le plus de tennis, on a tombé sur le top de la liste. Fait, within comme une couple de mois, on a ouvert pour des petites bands, des bands, whatever. Il y avait une band qui s'appelait Subliminal. Les yeux, on a ouvert pour eux autres. On a ouvert pour une band qui s'appelait Sights and Sounds. Ça, c'était soit des gars de Fall Out Boy ou d'une autre band. J'ai oublié que c'était a long time ago. Ben, c'était basically comme half d'une band qui était populaire. Puis, le frère de l'autre qui avait venu drummer, puis whatever.
Okay.
Puis, on a joué pour, on avait ouvert pour Motor League. Puis, on avait ouvert pour Angry Candy. Puis, on commence à avoir un petit following, puis c'est ça, basically, que t'as devenu la band. Mais éventuellement, small band, big band problems. Tu sais, il y avait des gars qui faisaient un petit peu trop de partying, puis il y avait des drama queens. On a juste tout arrêté là. Donc, comme 6 mois plus tard, il y a une couple de nous autres qu'on rejoint qu'une couple de gars de plus, puis on a recommencé, puis on a écrit une pleine album.
So, comment ça s'appelait, ces bands-là? Puis, y a-t-il des manières à trouver ça encore à Sture? C'est-il available online à Chipotle, le monde qui écoute, qui est curieux?
On avait une MySpace page, mais je pense plus que ça c'est up là. C'était appelé Bullet Tooth.
OK.
Puis, the hardest part d'être d'une band, c'est trouver le nom de la band.
Yeah.
Ça nous a pris plus longtemps à trouver le note de la band que ça nous a pris à écrire et à recorder un album. Parce que tout le monde a des opinions, puis, tu sais, non, on ne veut pas avoir un nom qui refer à du pot, puis on ne veut pas un nom qui refer à site, puis on ne veut pas du nom, puis ça, puis ça. Anyways. So, finalement, moi, j'aimais le movie Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Non, c'est-tu Lock, Stock ou Snatch? Anyways, il y a un gars dedans, Bullet Tooth Tony.
OK.
Puis on a juste tout d'un coup dit, OK, le nom de la band va être Bullet Tooth. Ça fait, si tu peux trouver Bullet Tooth, il y a 5 chansons recordées online. Les autres chansons, on a juste un recording dans le computer du studio. Puis si tu veux une copie, je te l'envoie, Marcel. C'est là, c'est rough, mais là, le démo était 17. Puis tu sais, okay. J'avais créé un petit album, tout ça. Puis ouais. Puis là, basically, les big band problems ont venu in the way, puis on a back break it up. Là, depuis ce temps-là, moi, j'ai une petite fille, puis Eric a eu une petite fille, puis on jam once in a while, mais en tant que band, tu sais, we missed our chance, basically.
Ben, je dirais pas you missed your chance, but tu as appris qu'il y avait d'autres choses à ta vie qui étaient plus intéressantes ou que tu voulais plus pousser dessus que ça, parce que il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec essayer de faire make a go at music. Là. C'est pas rien que recorder des démos, là, c'est de passer beaucoup de temps sur le chemin puis de laisser ta petite famille là pour aller essayer de vivre tes rêves, qui est comme, après un élan, tu te dis comme, OK, ben, je tente d'être vieux pour coucher sur un couch, puis passer du temps d'une van avec 4 boys ou 4 girls, puis de dire comme, on va faire une goette. Ça prend la détermination que tu viens un petit peu plus jaded de la vie, que tu te dis comme, je veux peut-être plus faire ça, là.
Ouais. Puis, ben, va dire de quoi, le rush que t'as sur le stage, comme, il n'y a rien comme ça. J'ai joué des sports, puis j'ai joué dans des grosses games, tu sais, là, comme quand je jouais Senior Bouctouche, l'aréna était à pleine, les playoffs, enfin, même. Il n'y a jamais rien qui m'a amené le rush de jouer on stage de la musique. Comme, c'est une drogue incroyable. Mais toi, tu dois le feeler avec ton stand-up. Tu veux dire?
Ben oui, pour sûr. Puis même j'ai joué en 12e année à high school, on a joué devant l'école, puis il y avait peut-être 400 personnes dans le gym. Puis on a joué Higher de Creed dans le temps, hein. C'était bien populaire. Puis on pouvait pas chanter si on l'a fait instrumental. But comme le monde avait vraiment rentré dedans, puis s'il faudrait, je choisirais comme 5 des meilleurs moments de ma vie, ça pourrait peut-être faire la liste. Ça ferait le 10 vraiment pour sûr de le rush de être sur le stage puis de jouer de quoi devant tellement de monde. Même, on dirait, je pense que, je sais pas si c'est peut-être parce que c'était ma première expérience. J'ai fait du stand-up que j'ai vraiment aimé, but rien comme quand j'ai joué de la musique devant l'école. Puis j'ai joué des plus grosses crowds de stand-up que ça aussi. Ça a été le fun, mais pas le fun comme ça. Puis je me dis, c'est peut-être à cause que c'était de la musique ou à cause que c'était la première fois. Mais il y a de quoi, comme j'admets avec toi, il y a de quoi de vraiment un high qui vient de ça, qui est dur à décrire, qui est vraiment...
Il y a quoi de spécial avec la musique, right? Comme,
pour sûr.
Music, c'est spécial in itself. T'sais, pour faire partie de ça, t'es comme, you're creating something qui est comme, que tu peux même pas voir, tu veux dire là?
Puis je pense que c'est, j'allais le dire, puis ça sonne wouhou, puis je suis pas quelqu'un qui croit that much dans des affaires de merde, mais comme une énergie qui se crée entre ça, comme créer un art, puis de voir une foule réagir à cet art-là, il y a une certaine énergie que ça porte, puis de comme, de être sur le stage, puis de donner beaucoup d'énergie, puis d'avoir toute cette énergie-là back reflétée à toi. Puis je trouve que énergie est le meilleur mot à utiliser, parce que, veux pas, on n'a pas un lexique qui peut vraiment très bien décrire ce feeling-là. But ça feel vraiment great. Puis je pense que quand ce que tu feel connected, parce que veux pas, je pense que c'est ça que ça fait, c'est la connexion. Parce que même sur le stage, à compter une joke, si tu composes de quoi que tu penses qui est drôle, tu arrives sur le stage, puis tu le dis, puis le monde rit, je pense que c'est la connexion qui est vraiment intoxicating au point à ce que tu es comme, j'ai crié de quoi, le monde a aimé ça, ils ont réagi, ils ont ri, puis ça me valide, puis ça me fait filer que j'ai comme apporté de quoi ou créé une sorte d'énergie ensemble avec cette foule-là qui fait qu'il est nice, right?
Mm-hmm. Oui, pour sûr. Pour sûr, parce que tu mets tout toi-même là-dedans.
That's right.
Te faire accepter par quelqu'un d'autre. Comme, il n'y a pas de meilleur feeling que ça, tu sais?
I think so. Puis ça doit vraiment aller loin du temps de, tu sais, les tribal times où ce que être accepté d'une tribe était vraiment important, que si tu te faisais, tu sais, si tu étais... basically exiled la tribe, t'allais mourir. So, il y avait vraiment une importance à filer connecté à cette tribe-là aussi, right? But je suis curieux, comme une fois que t'as comme développé ce côté musical-là, filais-tu plus plein comme personne?
Oui. Oui, ça comme... Je l'ai réalisé quand ce que on a devenu un petit peu plus sérieux, quand on a finalisé d'écrire l'album, puis on s'en allait comme un petit tour, puis jammer. J'ai dit au club de rugby que j'allais m'absenter pour une période de temps. J'avais jamais imaginé quitter un sport pour quelque chose d'autre. Comme le sport avait été le focus de ma vie, toute ma vie, comme ma, la famille que je viens de Bouctouche, là, c'est une famille sportive d'un bout à l'autre. Les sports, c'est une des seules choses qui existent. Tous les garçons, tous les cousins et les cousines ont toutes fait des, quasiment toutes des carrières dans les sports. Mes cousines, on est d'une famille d'hommes, nous autres. Il y a deux cousines, il y a comme 25 cousins, là. Mais même les cousines sont athlétiques, tu sais, golf, d'autres sports, la course, des choses de même. Mais les garçons, ils ont tous été super successful dans le golf. J'ai un cousin qui rêve de l'NHL. Tu veux dire, là, j'ai une bonne de cousins qui pourraient golfer avec anybody else au Canada. Tu sais, là, des joueurs de hockey. Moi, je joue au rugby. J'ai toujours joué du Canada pour l'athlétisme. Fait, c'était, faut que je me vire beau puis je dise, OK, je vais pas faire de sport parce que la musique, j'ai besoin de ça. C'est là que j'ai réalisé que comme, oh wow, comme, pour faire ce choix-là, premièrement, ça m'a, it broke the shackles of, que je filais, que j'étais attaché au sport, que j'étais seulement un athlète. Ça faisait des années que j'essayais de me détacher avec mon intellectuel, avec ma physique, puis mon Star Trek, puis mes choses comme ça. Mais j'ai pas vraiment été capable de reacher comme un point où ce que j'étais comme, ah, je suis OK depuis jouer des sports. Mais la musique m'a donné ça. Fait là, c'est là que j'ai vraiment réalisé que, OK, comme, I'm growing comme une personne, puis j'ai appris à devenir une meilleure personne, plus happy, plus well-rounded, puis ça m'a fait ouvrir les yeux, tu sais. En étant un athlète, en étant, tu sais, de small town, t'as beaucoup de vues conservatrices. Pas nécessairement en termes de politique, mais, tu sais, quand tu regardes, comme, qu'est-ce qu'un conservateur, tu sais, là, la petite vision de petite ville, tu sais, comme des, pas des problèmes avec d'autres races, mais comme la croyance que la race blanche est meilleure qu'une autre race. Tu veux dire, là, comme en grandissant dans une petite ville comme à Bouctouche, le monde n'est pas nécessairement raciste, mais ils sont certainement pas complètement ouverts à toutes les autres cultures et à toutes les autres races.
J'ai curieux comment il y a de ça qui stemme de juste, un, le manque d'éducation, que je pense qui est gros, on dirait qu'il y a peut-être moins de monde qu'on a eu la chance d'avoir un peu plus d'éducation. Puis l'autre, c'est l'exposition aux choses différentes. Veux pas, tu vis de ta petite place, t'as tes petites affaires, il n'y a pas beaucoup de... T'es pas exposé à ça, puis c'est, je veux dire, c'est striking quand ce que tu y penses. Comme moi, quand j'étais à l'université, c'est là que ma vision, ça fait ouvrir au monde. Puis il y a une partie de ça qui arrive aussi avec l'Internet. Veux pas, l'accès à l'information illimitée qui arrive avec l'Internet, à juste que tu peux aller là, puis tu peux googler about l'Afrique, parce que quand tu grandis à Bouctouche puis à Saint-Antoine, puis tu penses de l'Afrique, tu penses à vision mondiale avec du monde qui a des mouches dans le nez, puis tu te dis c'est ça qui est l'Afrique. Parce que c'est la seule window qu'on a été donnée de l'Afrique.
Puis t'es enseigné par une personne qui croit aussi que c'est la seule affaire. Tu sais là?
Il y a unfortunately peut-être de ça aussi. Puis ça change. Puis ça change pour le bon. Puis je suis fier. Puis je sais pas comment beaucoup que ça a changé, mais c'est certain que ça a changé beaucoup là. Mais c'est beau à voir quand même la diversité qu'ils commencent à avoir, puis je sais pas si c'est parce que j'ai plus d'ouverture d'esprit de ça, puis veux pas quand ce que tu te rassembles avec le monde qui se ressemble, puis je dis pas juste ça comme de physique, de côté éducationnel ou côté oui. Les manières que tu penses que la vie devrait être ou les manières que tu penses que tu devrais vivre ta vie, puis tu te fais éduquer à jusque moi en génie électrique surtout à l'université de Moncton, j'étais minoritaire canadien dans ma classe, tu sais. Dans ma classe, qui était une petite classe, on était peut-être, disons qu'on était une douzaine. Il y avait peut-être comme 3-4 Canadiens dans ces 12-là. So, t'avais du monde de partout qui venait de ta classe étudier. Puis c'était intéressant de voir les différentes manières, right? De voir que quelqu'un qui me parlait du voodoo au Niger, puis comment est-ce que c'était comme, il croyait d'être dans ça. Puis cette personne-là était super intelligente, puis elle avait peur du voodoo du Niger parce que c'était fort. Puis tu penses comme, wow, comment est-ce que la personne la plus smart dans ma classe de génie électrique croit dans quelque chose qui est comme kind of out there. Ouais. Puis tu vois culturellement, c'est vraiment différent, right? So, le background que t'as quand t'es né, te suit toute ta vie. Puis, veux pas, c'est difficile à changer ça. So, je pense que c'est là que ça devient difficile parce que de génération à génération, l'ignorance se fait propager. Puis, unless que tu step out de ça, unless que tu te dis comme moi, je vais sortir de Bouctouche, je vais sortir de Saint-Antoine, je vais sortir de la petite ville que je vis dedans, puis je vais aller voir quoi c'est qui est out there in the world, puis de voir que comme, hey, c'est de mon ici, t'es comme, pareil comme moi, avec juste des weirds de différents petits goûts, but ils sont still des personnes, comme que les célébrités sont juste des personnes, puis qu'on essaie juste de struggler avec quoi ce qu'on vit dedans, puis malheureusement, il y a beaucoup de, comme, parce qu'il y a du monde qui sont différents, qui viennent dans les petites places, des fois, il y a de la difficulté à s'adapter parce que le monde n'est pas ouvert. Bien qu'on est super friendly dans les petites places, on a de la misère avec les différences, puis ça, je ne sais pas quoi c'est la solution.
Oui, moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction avec comme l'éducation, puis l'accès aux médias mondiaux. Comme j'avais regardé comme un reportage chez des dictateurs, puis le spécialiste de ça disait basically que la seconde qu'un certain pourcentage du peuple est connecté, les dictateurs tombent. Parce que tout d'un coup, le gars du Nord dit au gars du Sud, hey, « Moi, ce gars ici, là, il me fait chier. » Il a gagné toutes les deux, puis il crée une révolution. Mais si le gars du Sud puis le gars du Nord ne sait pas que l'autre existe puis qu'il est dans le même bateau que lui, le dictateur est capable de continuer à faire ses choses. T'sais? Mais comme le plus gros ennemi d'un dictateur, c'est l'habileté de son peuple à se parler. Puis à créer comme un groupe qui va être contre ça. T'sais? Comme moi, une manière que j'ai réalisé que le monde devient plus ouvert puis plus comme semblable, mon frère a déménagé à Oklahoma quand on était à high school. Il était à l'école à Oklahoma State. Puis, quand ce qui est arrivé là, le Southern Drawl du monde était très épais, très épais. De la façon que tu t'imaginerais que quelqu'un du Sud parle.
Yeah.
Mais aujourd'hui, qui est seulement 20, 25 ans plus tard, le Southern Drawl a quasiment disparu du Sud. Mm. Parce que les jeunes, disons, de Oklahoma, de Arkansas, voient qu'ils sonnent pas comme la gang la plus intelligente. Ça fait leur goût de garder ce coutume-là et moins là qu'avant. Ça fait le Southern Drawl disparaît. Mais tu vois ça ici aussi. L'accent de Bouctouche, l'accent de Chidiac, l'accent de Ronco, de plus en plus devient le même accent. Et dans le temps qu'on était à high school, il y avait un accent très différent entre Bouctouche, Cocagne, Chidiac, Capelé, Ronco. Mais tu vois de plus en plus que l'accent commence à être plus uniforme. Il y a plus de contact entre le monde. Il y a plus on voit plus comment est-ce que d'autres personnes à d'autres places parlent. Puis qu'on était capable de sortir de notre petite ville. Mais 30 ans passé, comment ça allait sortir de Saint-Antoine?
C'est-y bon, ça. T'sais? C'est-y bon qu'on apprête par nos régionalismes qui a quand même un certain charme, je trouve, parce que j'ai travaillé beaucoup au Québec où ce que je pouvais pas passer une semaine au Québec sans me faire dire par quelqu'un qui émène notre accent. Puis il y a quelque chose que ça a devenu une fierté, mon accent, que avant j'aurais eu honte parce que on dirait quand ça fait dire que c'était kind of comme la manière qu'on présente le Southern Drawl comme du monde moins intelligent parce que le monde au Sud ont des valeurs qui sont pas vraiment communément acceptées avec la manière que la société fonctionne aujourd'hui. T'sais, beaucoup d'intolérance, t'sais, beaucoup de fermeture d'esprit qui est plus correcte aujourd'hui parce qu'on commence à le dénoncer. Puis justement, on devrait pas avoir une fermeture d'esprit. On devrait accepter les différences puis de voir comment est-ce que ces différences-là peuvent actually apporter à des meilleures choses pour la société. T'sais. Parce que quand tu te surroundes bien qu'avec du monde qui pense la même way, il y a beaucoup moins d'innovation parce que il y a pas quelqu'un qui arrive avec un différent bagage de toutes sortes de choses puis qui sait comme, hey, regarde, si on ferait site comme ce site-là, ça serait peut-être mieux, mais il y a rien que pense à ça parce que son bagage est différent du tien puis t'apportes de quoi de différent puis tu vas être comme, ah ouais, c'est vrai que c'est une meilleure manière à faire des choses.
Mais nous autres, c'est beau qu'on veut garder le chiac, qu'on veut garder notre langage, mais faut qu'on fasse ça avec un esprit ouvert. Moi, je me rappelle à high school de se moquer de, disons, Sébastien, parce que Sébastien disait réfrigérateur, puis il disait pas fridge.
Okay.
Fait, nous autres, comme on se parle qu'on est fiers d'être acadien, on est fiers de notre accent, on était aussi très close-minded de quelqu'un qui parlait pas comme nous autres.
Oui.
Fait, moi puis toi, on a sorti, on a vu le monde, puis on aime, qu'on admire la différence entre les gens. C'est pour ça qu'on est proud de notre chiac. Mais si on n'aurait jamais ouvert nos yeux à la beauté de la différence, on serait peut-être still qu'on aurait honte de notre chien. Mm. C'est sûr, on le sait que c'est beau la diversité parce qu'on l'a vu, on a l'expériencé, puis on a bu une bière avec un gars de l'Afrique, puis on a bu une bière avec un gars de l'Asie, puis on a vu qu'il était du même monde que nous autres, mais il y avait des choses de différence. Enfin, on a, tout d'un coup, on a ouvert notre tête, notre cœur à ça qui nous a donné un sens de pride. Oh, nous autres aussi, on est différents. T'sais? Mais 20 ans passés, on était juste concerné de garder ça puis de pas accepter personne d'autre parce qu'on voulait garder ça. Notre posture, it's less protection et plus celebration.
Mm-hmm. Okay?
Puis c'est plus facile de garder une culture si tu la célèbres que si tu la protèges.
Mm. C'est intéressant ça à penser à parce que comme je parle en tout fort, on sait raisonner moi-même parce que comme tu sais, il y a une partie que tu veux protéger aussi.
En la célébrant, tu la protèges automatiquement. Si je fais un concert, moi, j'invite tous les artistes de Bouctouche, tu sais, puis je le présente à toute la province, C'est ça, ça célèbre. Puis en faisant ça, ça va protéger. Mais si, que, comme une affaire qui me brûlait le cul, là, OK, Clément, si tu n'avais pas le droit d'avoir de la musique anglaise dans tes headphones, tu te rappelles de ça?
Mm-hmm. Yeah.
Mais ce qu'ils prenaient de la musique anglaise, ils prenaient ton Walkman. OK? Mais tu avais le droit d'avoir de la musique espagnole.
Ouais.
Mais là, là, c'est pas pro-français, là. C'est yeah. anti-anglais.
Mm-hmm.
Puis je pense que, over the years, qu'il y a des certaines parties de la culture acadienne qui a mouvé more towards pro-acadien, chiac, et non anti-anglais. Donc, tout que t'es anti-anglais, t'es aussi close-minded que anybody else. T'sais? Fait ça, ça m'avait comme, moi, j'étais dans le conseil étudiant grade 12, puis j'avais comme, j'avais eu une assignation avec l'administration à propos de ça. Comme t'as confisqué le Walkman à lui parce qu'il écoutait la musique anglaise. Mais il y avait un groupe de personnes de la même journée qui étaient dans le carrefour après écouter de la musique espagnole, puis le même enseignant a dit, ah, oh, c'est une belle chanson, ça. Mais là, tu fais juste de prouver que t'es anti-anglais. Puis hate will get you nowhere. On a appris ça beaucoup dans les derniers mois, mais ça a tout été présent. Et hate puis restriction will get you nowhere. Mais célébration.
Puis surtout à cet âge-là, à use que si tu veux être rebel, tu sais, sauf si tu me dis que j'ai pas le droit d'écouter de la musique anglaise, penses-tu que ça me fait vouloir faire rien d'autre qu'écouter de la musique en anglais, right?
Mm-hmm. Puis moi, j'aimais mieux de la rock, tu sais. Puis la rock française, c'était soit têteux, parce que c'était fait pour avoir quelque chose français, ou c'était pas totalement ce que je voulais entendre. C'est là?
Yeah. Oui, ça, c'est une grosse affaire de ça. Moi, I wish qu'au lieu de nous arrêter d'écouter de la musique en anglais à l'école, ils nous aurions présenté de la diversité de musique française qui aurait plus plaît à mes goûts aussi, tu sais. Parce que dans le temps, moi, pour longtemps, là, la musique française, c'était la musique acadienne. Puis, ou la musique traditionnelle acadienne, je veux dire. Personnellement, c'est pas ma favorite sorte de musique, bien que j'aime les artistes acadiens, puis ils font de quoi qui est great, puis to each their own. Ben, il y a d'autres artistes acadiens qui ont sorti du Lisa Leblanc qui est pas en tout du traditionnel acadien, hein? Ou peut-être il y a des petites racines de ça, mais c'est quand même très différent. Puis de la musique de même, il existait du 0 degré Celsius. Ça existait. Je connaissais pas ça parce que personne l'a vraiment fait être populaire. But j'écoute ça right now, puis je suis comme, holy cow, c'est pas mal cool, ça. C'est comme, j'aurais trouvé ça cool à high school aussi, but yet, on se faisait pas présenter ça, tu sais, on se faisait présenter les mêmes choses over and over again que, déjà, moi, je m'avais dit, comme, c'est pas la musique pour moi.
T'en rappelles-tu de À l'extrême?
Oui.
Zeux,
ah oui, c'est ça, tu sais, ils ont comme, pis ça finit après nous autres, right? Parce que,
un petit peu après nous autres, ouais.
Which, que c'est intéressant de voir que c'est comme, OK, ben, c'est un groupe acadien qui a créé de la musique qui était différente, qui était pas de la musique traditionnelle acadienne. Soit c'est le fun de pouvoir voir une variation de ça.
J'ai une question pour toi. Est-ce qu'un artiste qui est un Acadien fait de la musique acadienne?
Ben oui.
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
Ben why not?
Parce que, est-ce que tu dirais que U2 joue de la musique irlandaise?
Non.
Ben pourquoi est-ce que tu dirais qu'À l'extrême joue de la musique acadienne? Moi, je vois de la musique acadienne comme du Celtic français. Si t'as pas ce feel-là, t'es juste un Acadien qui joue de la musique. Comme moi, là, ma band, hein, on était tous des Français acadiens. On n'était pas une band acadienne. On jouait pas de la musique acadienne. On jouait de la rock. Et moi, c'est pour ça que j'ai de la misère. Comme plus, ben, j'ai plus de la misère avec ça. Comme, tu sais, ma femme, elle avait du Nord. Tu sais. Ça fait, dans la péninsule, il y a beaucoup d'artistes qui jouent un style québécois. Mm-hmm. Et là, la discussion était, est-ce que c'est de la musique acadienne? Et moi, je dis non. La musique acadienne, c'est une musique plus Celtic, violon, stepping, tu sais, high tempo. C'était de la guitare, une bass puis des drums. C'est de la musique française rock. C'est là que je vois comme, tu sais, moi, je trouve que la musique acadienne, c'est un genre et non qu'est-ce qui joue la musique.
Et je comprends ça, puis c'est pour ça que, à tantôt, quand j'ai dit de la musique acadienne, puis j'ai précisé de la musique traditionnelle acadienne. Puis, I guess qu'en cours, c'est que tu deviens à parler de des semantics, de juste le mot que tu décides d'accorder à quelque chose, c'est que ça qualifie d'une classe ou d'un autre, puis il y aurait tout le temps un énorme débat qui pourrait être. Donc ça, comme toutes sortes de musique, right? Tu pourrais dire comme Radiohead, c'est de la musique électronique. C'est un autre. Comme, on dirait les genres de musique, tu pourrais toujours débattre ça, right?
Oui.
So, je me dis de la musique acadienne, c'est de la musique qui a été créée par un Acadien, parce que ça c'est pas nécessairement une catégorie de musique. But en même temps, il y a des expectations aussi que si tu vas à Lorient en France puis tu dis qu'ils jouent de la musique acadienne, peut-être qu'ils expectent que c'est une musique de party, right? Une musique de kitchen party, à juste que le monde va, tu sais, comme danser puis ça va être up tempo puis ça. So, c'est difficile à dire, I guess, but quand même une question intéressante qui pourrait être.
C'est la manière que toi tu vois ça. Toi, vois-tu le titre musique acadienne comme le genre de musique, comme de la rock, comme de la country, ou vois-tu de la musique acadienne qui est un morceau de musique qui est mis ensemble par des Acadiens?
C'est ça,
moi,
exactement.
Moi, je vois ça
right?
comme un genre. J'ai tout le temps vu ça comme un genre. T'as la bluegrass, t'as la country, t'as la musique acadienne, t'as la musique irlandaise. Yeah. Si tu vois la musique acadienne, qui est juste un artiste acadien, de même, moi, j'ai tort. T'as raison.
Ben c'est ça, exactement. Ça dépend tout d'une définition, parce que c'est ça. Moi, j'aurais dit oui, parce que pour moi, la musique acadienne, c'est la musique qui a été créée par un Acadien. So, à la fin, c'est plate que le monde s'ostine. Des fois, tu vas t'ostiner beaucoup about ça, de jusqu'à la fin, comme c'est juste la manière que tu décides de définir les affaires. Puis tout le monde décide de définir everything pour eux-mêmes, right? Comme ça que toi, tu expériences comme jaune, ça veut pas dire que moi, j'expérience la même chose parce que ça que je vois que je dis qui est jaune, right? On assume que c'est ça parce que comme on expérience, on dit que quand on expérience ça, on appelle ça jaune. Quand on voit de quoi qui est jaune, on dit ça, c'est jaune. Puis on a tous les deux agree que c'est ça, mais il n'y a pas vraiment de manière à savoir que ça que toi, tu vois qui est jaune, c'est la même affaire que ça que moi, je vois qui est jaune. Puis ça va peut-être loin, là, c'est peut-être de quoi qui est.
Non, ben, déjà pensé que les choses que tu vois sont peut-être pas exactement la couleur qu'ils sont. Comme moi, je vois right now,
ah oui,
j'ai ma faune. La faune est noire. Ben, la faune est noire parce que la lumière qui frappe ça garde tout le noir. Le reste de la lumière rentre dans mon œil, ma brain voit ça. Mais ça se peut que qu'est-ce qui serait la actual couleur? La couleur est la couleur que tu vas percevoir, la couleur. Mais si tu penses à ça, quelles sont les couleurs des choses autour de toi?
C'est ça. Puis tu sais pas si moi j'expérience la même chose quand je vois ces couleurs-là.
Exactement.
Puis
exactement.
De quoi qu'on croit plus intéressant ça, je trouve, c'est si tu prends une personne qui a plusieurs mots pour décrire la couleur noire, il va plus facilement pouvoir différencier entre les shades de noir que toi. Parce que son vocabulaire de couleur noire est plus gros.
Ouais.
So, comme juste comment est-ce que le langage peut affecter ça? C'est vraiment intéressant. Puis on s'en vient dans des affaires pas mal flyées. Puis c'est comme ça qui est intéressant, c'est qu'on allait parler de choses un peu flyées comme du interstellar space travel, du limitless energy. Puis non, on a parlé pour un heure à discuter des affaires que j'ai trouvées super intéressantes pareil. Puis, il faudrait peut-être mettre ça pour une prochaine fois, I guess, parce que l'épisode est déjà fini, Yves. Merci beaucoup d'avoir venu parler avec moi. J'aimerais te poser une question que j'ai commencé à poser à du monde, que je trouve intéressant parce que quand j'étais plus jeune, le monde me disait comme, « Oh, j'aimerais ça te savoir à quoi je suis sûr quand j'avais ton âge. » Puis, à ce stade, j'arrive à un âge, j'ai eu ce que je pense à ça des fois. Puis, je suis curieux pour toi, Yves, si que tu te ferais dire, comme s'il faudrait que tu te dirais de quoi à Yves de 18 ans pour comme assez l'aider dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dirais?
Stop thinking twice. Moi, je m'ai aperçu que comme la personne que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus proche de la personne que je veux être que dans le temps. Puis c'était dû à différentes influences puis des choses comme ça. Tu sais, comme quand c'est en high school, ben tu veux pas dire quelque chose parce que t'as peur que le monde te juge ou tu veux pas faire quelque chose parce que t'as peur. Tu sais, comme au début, moi, je t'avais dit que moi, j'ai toujours été un gars qui, tu sais, j'avais pas peur de parler de Star Trek puis des affaires de nerd avec mes chums de mon équipe puis des affaires de même. Mais il y a quand même une partie de la manière que j'allais m'exprimer, que j'avais quand même peur que ça passe pas ou ça soit pas accepté, des choses comme ça. Puis comme un adulte, ça c'est beaucoup plus comment je fais dire ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de juste let it out. Mm-hmm. Je m'aperçu que si je le dis dans ma tête puis je trouve c'est drôle, puis je le dis pas, la deuxième fois que je le dis, c'est pas drôle, je le dis pas. Puis more often than not, je prends la shot. I just take the shot. Si je fais la rim, bah, tu sais, je suis plus happy parce que je feel que la personne à l'extérieur est beaucoup plus la personne à l'intérieur. J'ai struggled avec ça beaucoup dans ma jeunesse, que la personne que le monde voyait n'était pas vraiment la personne que j'étais, mais plus la personne que le monde voulait que je sois.
Cool. Ouais. Awesome, j'aime ça.
Ouais.
Merci. Merci pour ça, Yves. Et merci d'être ici avec moi à nous parler de ça. Sur Parle-moi de ça.
Anytime, buddy.
C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça, discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.